il y a une frustration vraiment croissante. Il y a toujours eu une résistance et personne n'est naïf en Irak. C'est une place que je dis toujours très, très, très politisée. Puis personne croyait aux rhétoriques des États-Unis que c'était du bon cœur des États-Unis, qu'ils allaient venir libérer le pays, etc. Mais il y avait un espoir parmi certains quartiers, en certains secteurs. Maintenant, cet espoir existe de moins en moins. Et lorsque je suis partie, il y avait vraiment une colère croissante, puis une frustration et aussi un désespoir grandissant, étant donné toute la violence des derniers deux mois.
Puis est-ce que tu as rencontré des représentants du, entre guillemets, pouvoir intérimaire, des gens du gouvernement intérimaire, du conseil j'oublie, ça m'échappe comment il s'appelle, là?
Interim Governing Council.
Ouais.
Non, j'ai pas rencontré directement les gens qui siègent, les 25 personnes qui siègent sur le conseil. C'est clair que j'ai rencontré des gens des partis, donc le Parti communiste, etc., siège là et fait partie de ce conseil.
Et puis, ben c'est ça, nous, ben, moi je suis curieux parce que on se demande qu'est-ce que font ces gens-là. Ça fait un an qu'ils sont là, ou tout près d'un an qu'ils sont là, et puis la situation n'a fait que dégénérer sensiblement depuis qu'ils sont entre guillemets au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe avec ce conseil de gouvernance?
C'est clair que ce conseil a été mis en place par les forces occupantes, tous les membres ont été nommés un peu pour représenter tous les secteurs comme le voient les forces occupantes. Ouais. Encore une fois, c'est un peu défini par eux. Toutes ces personnes sont accompagnées, pour le dire gentiment, par des conseillers américains.
Ouais.
Et c'est clair qu'il n'y a pas une grande autonomie, étant donné que c'est les forces occupantes ou les autorités provisoires à qui appartiennent tous les revenus d'huile, tous les revenus domestiques, la capacité militaire, la capacité exécutive et judiciaire en ce moment. Donc, c'est clair que ils ont presque pas de pouvoir comme conseil gouvernant. Ils ont participé à la rédaction des lois provisoires pour la transition. Là, c'est clair, il y a toutes sortes d'intérêts différents et de débats internes. Mais là, on se demande à Bagdad, est-ce que c'est vraiment des débats qui peuvent se faire avec l'intervention perpétuelle et la force militaire des forces occupantes qui restent là. Mais même si ce conseil de gouvernance ne peut pas être et on ne voit pas à Bagdad comme un vrai gouvernement irakien, c'est clair. C'est même si on ne croit pas que ça a un véritable pouvoir, il faut quand même dire que il y a un peu de respect pour différents personnages qui siègent sur ce conseil-là dans les différents secteurs. Donc, je pense qu'il y a eu comme un réflexe dans le mouvement anti-guerre occidentaux de juste dire que ben c'est toutes des chalabis qui ont toujours été subventionnés par les États-Unis. Ils sont toutes vendus, ils sont toutes corrompus. Mais je pense que ce que j'ai remarqué à Bagdad, c'est que même si les gens étaient très sceptiques par rapport au véritable pouvoir de ce conseil-là, les gens ont parfois un certain respect pour les chefs du Parti communiste qui sont là, ou ont un certain respect pour les représentants du Parti Dawa, disons, qui sont là. Ibrahim El-Jaf peut être très bien respecté dans certains secteurs. Donc, juste pour être juste.
Puis, s'il y a une chose qu'on peut dire à propos du conflit actuellement, de la situation actuelle, c'est le fractionnement. Il y a beaucoup d'intérêts, des intérêts variés, des fois parfois conflictuels, parfois complémentaires, qui jouent dans cette espèce de nébuleuse là, du pouvoir en Irak actuellement. Et une chose qui s'est produite, un événement qui s'est produit quand tu étais là-bas, c'est l'insurrection chiite. Si on veut, l'attention, en tout cas ici, une attention soudaine qui a été portée à Muqtada al-Sadr. Est-ce que tu déjà rencontré des chiites de la faction des, je sais pas comment, les Moctadites ou les
gens de Sadr. Ouais. Il faut dire premièrement que oui, il y a toutes sortes de factions, de secteurs différents, mais c'est ça la politique n'importe où. Et ces divisions-là ont d'une manière été peut-être créées ou ont été augmentées par le colonialisme britannique qui s'en est servi pour bien s'implanter, pour bien coloniser la région. Après, ça a été utilisé de diverses manières par le régime de Saddam qui a privilégié certains secteurs et a plus réprimé d'autres, même si c'était quand même un régime pas mal répressif partout. Donc maintenant, les gens ont affaire avec ces divisions et ont en plus affaire avec un pouvoir comme les États-Unis qui est là, qui va certainement exploiter les divisions. Et même les différences autant que possible, sans laisser l'espace politique pour que les gens aient les débats qu'ils doivent avoir en Irak pour aborder un futur. Donc, par rapport à Muqtada al-Sadr, oui, c'est clair, j'étais là lorsque les États-Unis ont les autorités provisoires ont choisi de fermer son journal de Al-Hawza. Pour les manifestations qui étaient paisibles, les manifestations des gens qui suivent Muqtada al-Sadr. Et aussi, j'étais là, j'ai pas assisté à la manifestation où l'armée américaine a tué 3 personnes durant une de ses premières manifestations. Mais par après, j'ai assisté à quelques manifs. J'ai pas eu la chance à parler, vraiment avoir toute une discussion avec quelqu'un, un des aides de Muqtada, mais j'ai assisté à Koufa à un de ses un des vendredis où il prêchait dans la mosquée. Donc, il faut dire que oui, c'est clair, Muqtada a un appui. C'est, comme on dit toujours, c'est un appui qui vient des secteurs chiites les plus pauvres à Bagdad. Il a cette armée, sa ministre, le Jaysh al-Mehdi, qui défendent d'un bord leur bureau, parce que pendant le mois que j'étais là à Bagdad, les Américains bombardaient systématiquement tous les bureaux de Muqtada al-Sadr en disant qu'ils devaient lui attraper dead or alive, l'addiction cowboy des États-Unis qui ne passe pas très bien en Iran.
Justement, une attitude John Wayne un peu comme ça, est-ce que ça risque pas juste d'envenimer la situation, de pousser encore plus loin, peut-être dans l'insurrection civile, etc.?
Ben, c'est clair que c'est comme un pays impérialiste bien connu pour ses liens avec Saddam qui maintenant envahit le pays, qui est là pour amener la libération, puis là, qui est là dans ton quartier, qui dit qu'ils vont trouver Muqtada dead or alive. Ça passe pas très bien, spécialement parce que ça rappelle au monde et au monde chiite en particulier que Saddam Hussein avait assassiné le père de Muqtada et ses 2 frères aînés avec un peu la même attitude. Ils allaient mourir parce qu'il prêchait contre Saddam et aussi contre les États-Unis. Mais là, c'est la même chose. Muqtada se dit et se prononce très ouvertement contre l'occupation. Tout à coup, il allait être poursuivi jusqu'à la mort. Il y a cette résistance qui a vraiment agrandi et est vraiment partie lorsque j'étais en Irak et qui continue en fait à batailler, à lutter à Karbala en ce moment et à Najaf. Et maintenant que j'ai passé le temps que j'ai passé en Irak, je sais bien que s'il y a des batailles de rue à Najaf, à Karbala, il y en a aussi à chaque soir dans d'autres quartiers chiites à Bagdad.
On va prendre une autre petite pause et on va parler ensuite, peut-être conclure avec la situation des étrangers là-bas. On sait très peu comment les étrangers, les observateurs étrangers ou les gens qui sont là-bas pour une occupation, pour travailler, etc., sont vraiment reclus, exclus, si on veut, de la société, la soi-disant société civile là-bas. Alors, on va parler de ça après la pause.